Merci d'écouter RFI, 11h30 en temps universel. Il est 13h30 à Paris et à Bruxelles. Et dans une demi-heure, ce sera l'heure du journal avec vous, Alban Le Prince, et vous nous parlerez tout à l'heure.
Bonjour Anne, et bien évidemment on va revenir sur cette nouvelle tentative d'assassinat présumée sur Donald Trump. C'est la deuxième en moins de deux mois, c'était hier. Thierry Breton qui claque la porte de la Commission européenne. Emmanuel Macron propose Stéphane Séjourné pour le remplacer. Michel Barnier qui est sous pression car la France n'a toujours pas de gouvernement et pourtant elle est censée présenter son projet de loi finance pour 2025 avant le 1er octobre. Alors comment ça va se passer? On verra. On ira également en Autriche, durement touchée par le passage de la tempête Boris. Et puis, deux ans après la mort de Mahsa Amini, que reste-t-il du mouvement Femmes, Vie, Liberté? On va tenter d'y répondre.
À tout à l'heure, on vous retrouve dans une demi-heure. Et nous, nous sommes en Europe jusqu'à midi, temps universel.
RFI, l'Europe à midi.
Et on va parler d'abord de cette nouvelle illustration des difficiles tractations pour former le nouvel exécutif européen. Le Français Thierry Breton claque la porte. C'est pourtant lui qui avait été désigné par le président français en juin dernier pour effectuer un second mandat au poste de commissaire chargé du marché intérieur. Ce ne sera pas le cas. Thierry Breton estime ne plus être en mesure d'assumer cette charge, Pierre Benazet, et il expose au grand jour la mésentente qui règne depuis des mois entre lui et la présidente de la Commission européenne.
Thierry Breton envoie ce lundi une lettre circonstanciée à la présidente de la Commission. Il reproche à Ursula von der Leyen d'avoir négocié son départ dans son dos. Le commissaire français accuse la présidente de la Commission d'avoir demandé à Emmanuel Macron de le remplacer. En échange, la France pourrait prétendre à un portefeuille de poids au sein de la future Commission. « J'avais été officiellement désigné par le président de la République, écrit-il, mais vous lui avez demandé, je cite, de retirer mon nom pour des raisons personnelles. Et à aucun moment, vous n'en avez parlé avec moi. » Selon lui, c'est là une nouvelle preuve d'un mode de gouvernance discutable de la part d'Ursula von der Leyen. Il faut dire qu'il ne s'était pas privé de critiquer vertement la présidente de la Commission au mois de mars, au moment du lancement de la campagne pour désigner les candidats à la présidence de la Commission. C'était la première fois que leur bisbille répétée était ainsi étalée en public. Et ce lundi, Thierry Breton claque la porte avec fracas puisqu'il démissionne, je cite, « avec effet immédiat » et son entourage précise que ce départ n'est en aucun cas lié à une éventuelle entrée dans le futur gouvernement français. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Du côté de la présidence de la Commission européenne, on sauvegarde les apparences par la voix de son porte-parole. Ursula von der Leyen remercie Thierry Breton pour son travail et elle fait savoir qu'elle compte toujours présenter son équipe demain. Thierry Breton laissera sa marque, c'est sûr, au commissariat au marché intérieur. Il faut dire qu'il était sur tous les fronts, architecte de la relance de l'industrie européenne. L'ancien grand patron s'est surtout fait connaître du grand public pour sa lutte contre les abus de pouvoir des géants du numérique. Bonjour Anne Verdaguer.
Bonjour.
À sa nomination, il y a 5 ans, Thierry Breton était à la tête du groupe français de technologie Atos. Il est devenu le premier grand chef d'entreprise, en fait, à entrer à la Commission européenne.
Oui, il a été à la tête d'autres grands groupes de la tech française. D'ailleurs, Bull, Thomson, Multimédia, France Télécom, il s'est forgé une réputation de sauveur d'entreprise. Chargé du numérique à la Commission européenne, il est dans son élément et il sera à la manœuvre dans les enquêtes visant X, l'ex-Twitter, Meta et TikTok. Son cheval de bataille, la diffusion présumée de fausses informations et de discours de haine. Il est ainsi l'artisan de deux textes qui imposent de nouvelles obligations et interdictions pour en finir avec les abus de position dominante et le laisser-faire dans la diffusion de contenus illégaux. Ce seront le Digital Service Act et le Digital Market Act qui feront date selon Geoffrey Bruno, professeur de droit et spécialiste du numérique.
Les deux règlements que sont le Digital Services Act et le Digital Market Act ont vraiment marqué un pas en avant de l'Union européenne dans la réglementation des activités numériques. D'un côté, avec le DSA, l'objectif c'est principalement qu'il y ait une plus forte responsabilité de la part des acteurs du numérique et une plus grande transparence également dans leur fonctionnement, dans les mises en relation qui sont réalisées. Et de l'autre côté, le DMA, qui a plus un volet concurrence et équilibre du marché, lui est venu essayer de compenser la trop grande puissance que pourraient avoir certaines des entreprises par rapport à des entreprises qui seraient plus petites, afin justement de rétablir un meilleur équilibre dans le marché du numérique. C'était vraiment quelque chose qui était nécessaire parce que la directive de 2000 présentait un certain nombre de défauts. C'était vraiment la première réglementation européenne du commerce électronique et il y avait besoin de la mettre à jour, d'une part, et surtout de créer une réglementation qui activités spécifiques pour des nouvelles pratiques professionnelles.
Thierry Breton, c'est aussi un style direct, un personnage qui soignait son image disruptive, comme on dit, à l'encontre d'un certain ordre établi.
Oui, et il restera célèbre notamment pour sa joute avec Elon Musk sur les réseaux sociaux. Les deux hommes se sont rencontrés à plusieurs reprises. Il semble d'abord s'apprécier, mais la multiplication des mises en cause de X, l'entreprise de Musk, en Europe, les conduit à des échanges publics de plus en plus hostiles. Thierry Breton est devenu le nouveau shérif du web avec cette phrase qui restera elle aussi dans les mémoires. L'Internet ne peut rester un Far West. Mais il ne fut pas uniquement l'artisan de la réglementation du monde du numérique à l'échelle européenne. Il faut aussi se rappeler son rôle pendant la crise Covid en tant que responsable de la Task Force européenne sur les vaccins. Il fut aussi un farouche défenseur du nucléaire, un secteur qu'il a contribué à réhabiliter au sein de la Commission européenne malgré l'influence allemande.
Merci Anne Verdaguer. Le président français, lui, a déjà proposé un nom pour remplacer Thierry Breton, celui de l'un de ses proches, l'éphémère ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné. Cette démission fracassante s'affiche en une de la presse européenne ce matin. Thierry Breton règle ses comptes, titre Le Temps. Chahuté avant même d'être constitué, le futur exécutif européen accumule politique et retard, écrit Le Soir en Belgique. Et puis The Guardian écrit, lui, que cette annonce ajoute au désarroi concernant la nomination de l'équipe dirigeante d'Ursula von der Leyen qui a déjà pris du retard en cherchant à obtenir une composition plus équilibrée entre les hommes et les femmes. Madame von der Leyen a involontairement déclenché une querelle politique en Slovénie, rappelle le journal britannique, après avoir fait pression sur le gouvernement pour qu'il retire un candidat masculin.
Berlin, 96.7 FM.
L'information est parue durant le week-end, révélée par la presse, l'agence Bloomberg et le journal Le Monde. Les groupes Renault et Volkswagen tentent de convaincre l'Union européenne de leur laisser plus de temps, de repousser de 2 ans l'entrée en vigueur de nouvelles règles sur les émissions de CO2. Ces règles, elles prévoient notamment de fortes amendes si les entreprises automobiles ne vendent pas plus de véhicules électriques, 1 pour 4 voitures classiques, afin de compenser les émissions de gaz à effet de serre. Oui, mais voilà, les ventes ne décollent pas comme prévu et les entreprises concernées tentent donc de reporter à 2027 ces réglementations programmées pour l'an prochain. Certaines entreprises, du moins, car Stellantis, deuxième groupe européen, a fait savoir qu'il jugeait irréaliste de changer les règles maintenant. Mais pour Volkswagen, c'est un nouveau coup alors que le groupe traverse une crise sans précédent. Pour la première fois, l'entreprise allemande envisage de fermer des usines, de licencier. Et dans la ville où siège le groupe, à Wolfsburg, ces perspectives ont laissé la population sidérée et inquiète. Reportage Salomé et Noncoin.
L'ambiance est pesante devant l'usine Volkswagen de Wolfsburg. À la mi-journée, les équipes du matin et du soir des usines de montage se relaient. Signe du lien très fort entre le constructeur automobile et la ville, un tunnel souterrain de plusieurs centaines de mètres relie l'immense usine et le centre. Christine, 37 ans, 11 ans de maison, est en route pour rejoindre son poste à la logistique. Et même si cela fait déjà une semaine qu'elle a appris que son avenir était peut-être en jeu, la pilule ne passe pas.
J'ai vraiment été choquée, honnêtement. La sécurité de l'emploi a été levée, c'est fini. C'est la merde, on ne sait pas ce qui nous attend. Mais je pense que je vais quand même continuer à travailler ici, il n'y a rien de mieux que Volkswagen. Enfin, pour nous, les employés, ça craint complètement, parce qu'on ne sait vraiment pas ce qui nous attend.
Et c'est là le cœur du problème, la sécurité de l'emploi. En 1994, les grandes entreprises automobiles allemandes avaient signé un accord de branche pour garantir la sécurité de l'emploi à leurs salariés. Parmi eux, Volkswagen, donc, fleuron historique de l'industrie allemande, né dans les années 30. Mais aujourd'hui, la situation économique extrêmement tendue, la concurrence avec l'industrie automobile chinoise et d'autres facteurs viennent bouleverser la donne. La direction de Volkswagen est sous les projecteurs depuis cette annonce choc. Salariés et syndicats lui reprochent de ne pas avoir anticipé une situation claire depuis plus d'une décennie, de ne pas avoir emprunté le chemin de l'électrique, de ne pas avoir simplifié des procédures toujours plus bureaucratiques et surtout de ne pas avoir communiqué sur ces problèmes. Car, comme tout le monde, les quelques 300 000 employés du groupe ont appris cette nouvelle dans la presse. Le principal syndicat des ouvriers du groupe, IG Metall, est particulièrement préoccupé par ces annonces. Diane Fofana, employée de Volkswagen depuis 14 ans, se dit prêt pour cette nouvelle lutte.
Nous sommes prêts à nous battre. Nous allons nous battre. Faire grève, c'est possible. Mais nous avons des conventions collectives à faire respecter avant. et on va s'y atteler.
Car cette annonce de la direction de Volkswagen pose la question de la santé d'un des socles de l'économie allemande, l'industrie automobile. Ce secteur emploie plus de 800 000 personnes dans le pays. Et c'est la ville de Wolfsburg, siège historique de Volkswagen, qui pourrait payer le plus lourd tribut. Mais à la mairie, on ne se fait pas trop de soucis quant à l'avenir de l'entreprise. Jens Hofschöer est chargé des questions économiques et travaille au quotidien avec Volkswagen.
Je ne crois pas que du jour au lendemain, Volkswagen va mettre des salariés à la porte. Le groupe et la direction le savent, ils ont une trop grande responsabilité pour toute la région, pour tout le Land, pour toute l'Allemagne.
Mais il suffit de sortir un petit peu de la mairie et de se diriger vers la rue principale, la bien nommée rue Porsche, à quelques encablures, pour entendre un autre son de cloche.
Quand on pense à ce que Volkswagen a fait pour la ville à l'époque, ils ont construit des bâtiments, des musées, et maintenant tout doit partir en fumée ? On ne peut pas le croire. Je ne le crois pas non plus. Il faut essayer de rester positif.
Car à Wolfsburg, chacun a son avis sur la stratégie industrielle de Volkswagen face à la concurrence chinoise, notamment dans le secteur des véhicules électriques. Son mari, Bernd, qui a fait toute sa carrière là-bas, n'est pas en reste.
Je ne comprends pas non plus pourquoi Volkswagen ne fabrique pas en masse des petites voitures pour se sortir de cette situation. Ils ont tout pour fabriquer des polos électriques, par exemple. Ils ont tellement de plateformes de montage. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de petites Volkswagen sur le marché, que des grosses cylindrées. Je ne peux pas me permettre d'acheter une voiture à 70 000 euros en tant que retraité.
Un constat que partage Léo Pretel, architecte dans la région de Wolfsburg. Comme de très nombreuses personnes, il vient d'une famille Volkswagen. Son grand-père paternel a fui l'Allemagne de l'Est dans les années 50 pour venir travailler ici, puis son père et ses oncles ont pris le relais. Même scénario pour son grand-père côté maternel, un immigré polonais. Toute son enfance, Léo l'a passé entre sa maison et l'usine. Mais les temps ont changé, et la semaine dernière, Léo s'est acheté une nouvelle voiture électrique, une Fiat. De quoi faire bondir sa famille.
Je vais devoir entendre des remarques sur le fait que je conduis une voiture italienne. Quand j'étais petit et qu'on regardait la Formule 1, on soutenait toujours l'équipe Mercedes, une voiture allemande, une bonne voiture.
Mais pour lui, son choix est significatif d'un manque d'offres chez Volkswagen.
Mon avis, c'est que si l'on veut avoir un avenir en tant que constructeur automobile, il faut aussi concevoir et proposer des produits accessibles. Dans la famille, on avait une expression, on parlait de la voiture pain. Tu vois, la voiture que tu as tous les jours, comme le pain qui te nourrit tous les jours. La voiture normale et utile à tous, produite à grande échelle et qui roule bien.
À Wolfsburg, c'est peut-être aussi la fin de la famille Volkswagen qui s'annonce, comme celle de Léo, ou encore de Giuseppe Lopresti. Comme son père avant lui et ses deux frères aînés, ce fils d'immigrés siciliens travaille chez le constructeur automobile depuis une trentaine d'années. Un chemin que ces deux filles ne vont pas emprunter.
Dans la famille, quand je regarde autour de moi, j'ai encore trois neveux, non quatre, qui travaillent chez Volkswagen. Mais je sais aussi que la génération suivante, c'est-à-dire mes enfants, ne travailleront pas là-bas. Ils se sont orientés ailleurs. L'Allemagne, pays de l'automobile, c'est fini la vie en rose.
Et la première victime de la fin de cette ère pourrait bien être Wolfsburg, la capitale de Volkswagen, où 50 000 personnes travaillent pour le constructeur et dépendent de sa bonne santé.
Reportage de notre correspondante à réécouter ce soir dans l'émission Accent d'Europe à 19h10, temps universel. Et puis des milliers de personnes ont défilé ce matin à Bruxelles pour soutenir les salariés d'une usine Audi. Elle est menacée de fermeture en Belgique. Ils réclament aussi à l'Union européenne davantage d'investissements dans le secteur industriel.
RFI, l'Europe à midi.
Les secours sont à pied d'œuvre dans plusieurs pays d'Europe centrale pour venir en aide aux victimes des inondations qui sont parfois réfugiées sur les toits de leur maison ou sur les toits de leur voiture. On déplore 11 morts au moins dans la région. Des milliers de déplacés. Ces pluies des derniers jours ont provoqué de très importants dégâts. D'ailleurs, la République tchèque a demandé l'aide de l'Union européenne, tout comme la Pologne, où de nombreuses villes ont été évacuées. Notre correspondant Adrien Sarla s'est rendu à Waubrich. Voici son reportage.
Dans les quartiers nord de Waubrich, la rivière est sortie de son lit hier pour se heurter aux sacs de sable installés par les riverains. Depuis, l'eau s'est retirée, laissant des terrains marécageux, mais Marek anticipe déjà la prochaine crue.
Sur cette portion, la rivière est 3, voire 3,50 m trop haut. Et ça représente un danger, car à ce niveau de débordement, l'eau est prête à envahir les maisons.
Certains habitants ont déjà eu un avant-goût des inondations.
Ce matin encore, toute cette partie de la route était sous l'eau.
Ce week-end, la rivière s'est frayée un chemin jusqu'à la cave de Lydia. L'eau lui arrive désormais jusqu'aux genoux.
On ne s'attendait pas à ce que ce soit si terrible. On a appelé les pompiers pour qu'ils viennent pomper l'eau, mais ils nous ont répondu que toute la ville avait besoin d'être aidée, comme nous. Tout est déjà inondé. Il va continuer de pleuvoir aujourd'hui et demain, et ça va venir s'ajouter à tout ça.
Lydia comprend qu'elle n'est pas la priorité pour les secours. Des dizaines de localités alentours ont déjà été évacuées, et la nouvelle vague de précipitations encore plus forte de cette nuit pourrait bien alourdir le bilan de Boris. Adrien Sarlava, Objet, pour RFI.
Les conséquences de cette tempête, elles ont aussi poussé le Premier ministre hongrois à annuler ses engagements européens, lui qui devait s'exprimer au Parlement mercredi. Viktor Orban dit vouloir se consacrer à la situation après les intempéries. 11h46, en temps universel, il n'y a pas de perturbations aux frontières ce matin en Allemagne. Tout fonctionne avec une étape supplémentaire. Des contrôles pour ceux qui entrent ou sortent vers la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Danemark. Berlin a décidé de suspendre l'une des règles fondamentales dans l'Union européenne, le principe de libre circulation. Et le retour de contrôle est très impopulaire, comme l'a constaté notre correspondante Nathalie Versieux, à la frontière avec la Pologne.
Francfort-sur-l'Oder est un peu la Strasbourg de l'est de l'Allemagne. Sur la rive ouest du fleuve Oder, la ville allemande, à l'est, sa moitié aujourd'hui polonaise, Słubice. Depuis la chute du mur, les autorités ont œuvré à un rapprochement entre deux peuples que la frontière séparait presque hermétiquement du temps du régime communiste. Le rétablissement par l'Allemagne des contrôles aux frontières en octobre 2023 pour lutter contre l'immigration clandestine a permis de réduire les entrées de clandestins. Mais il a aussi de lourdes conséquences pour les populations, comme l'explique Andreas Oppermann, journaliste local pour la chaîne publique RBB.
C'est surtout un très gros handicap pour les gens de Słubice, parce que la ville est constamment complètement bouteillée. Mais aussi pour les habitants de Francfort sur l'Oder, qui avaient par exemple des activités à Słubice et qui ont renoncé car ils ne peuvent jamais savoir s'ils arriveront à temps ou s'ils arriveront à rentrer chez eux. Les contrôles aux frontières sont une rupture dans tout ce qui avait été construit au cours des 20 dernières années entre les deux villes.
Sur les quelques 300 kilomètres de frontière entre la Pologne et l'Allemagne, ce sont partout les mêmes images. Circulation réduite à une voie et à 20 km/h sur les postes frontières des autoroutes, de colossaux embouteillages côté polonais, des travailleurs frontaliers exaspérés et des fédérations patronales inquiètes de cette brutale remise en question des accords de libre-échange européens. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Notre question d'environnement, on va parler de la menace toujours plus grande qui pèse sur les défenseurs de l'environnement. Parce que dans un rapport publié la semaine dernière, l'ONG Global Witness a révélé que près de 200 d'entre eux avaient été assassinés dans le monde en 2023. Sans surprise, l'Amérique du Sud reste le continent le plus dangereux pour les écologistes. 85% de l'ensemble des meurtres. Mais ce rapport révèle également, Igor Strauss, et c'est plus surprenant, un durcissement très fort des lois en Europe et aux États-Unis.
Oui, vous avez sûrement entendu parler de ces mouvements d'activistes, Extinction Rebellion, Letzte Generation, dernière génération en français, les soulèvements de la Terre. Ils sont en France, en Autriche ou en Grande-Bretagne et ils militent pour la défense du climat et de la biodiversité. Michel Fort, rapporteur spécial des Nations Unies, auteur d'un rapport sur la criminalisation des défenseurs de l'environnement en Europe.
On oublie trop souvent que nous sommes à l'aube de la sixième extinction de masse. Il y a des centaines, des millions d'espèces animales et végétales qui disparaissent. Et les États prennent des engagements sur le plan international, mais ne les respectent pas. Et c'est ça qui explique effectivement cette crise à l'heure actuelle environnementale entre les militants qui ne comprennent pas pourquoi les États prennent des engagements et pourquoi on voit si peu de résultats dans nos pays.
Mais ce manque de résultats, il pousse les militants à aller toujours plus loin et à mener des actions coup de poing.
Oui, jets de peinture ou de soupe sur des tableaux célèbres, alors protégés par des vitres, donc sans conséquences pour leur conservation, blocage de routes, d'aéroports, enchaînement dans des arbres. Les militants, exaspérés par l'inaction des politiques, mènent des actions symboliques pour sensibiliser l'opinion publique, mais le paient désormais au prix fort. 4 ans de prison pour un militant britannique accusé d'avoir bloqué une route. Selon Michel Fort, manifestent, la répression s'abat partout au mépris du droit et des libertés.
Quand je parle de ça avec des ministres en Europe ou avec des magistrats, on a le sentiment que le droit international est quelque chose qui n'est pas familier à leurs oreilles. La liberté de manifester, elle est réglementée au plus haut niveau. Et dans le cadre de cette liberté de manifestation, il y a tout un chapitre consacré à la désobéissance civile. On dit que rien n'interdit évidemment aux États de traduire en justice les personnes qui désobéissent à la loi, mais que néanmoins, ça doit se faire dans un cadre très précis. Et on rappelle que, par exemple, la perturbation, le blocage de route, l'interruption de circulation n'est pas un crime en soi et peut être toléré comme étant une forme d'expression classique utilisée par les mouvements sociaux.
Pour être clair, Igor, la désobéissance civile est autorisée par le droit international.
Oui, surtout quand il s'agit d'actions pacifiques, sans atteinte aux personnes. Remettre en cause ce droit est donc une menace majeure pour la démocratie, les droits humains et la planète. Mais l'autre problème, Anne, c'est que certaines de ces actions ne sont pas comprises par l'opinion publique. Selon l'enquête Baromètre écologie-environnement, si la majorité des Français trouve acceptable de bloquer une entreprise polluante, près de 70% trouvent en revanche intolérable d'obstruer une route. Face à cette incompréhension et au durcissement de la législation, eh bien les militants jettent l'éponge. En août dernier, Let's Generation Autriche a déclaré cesser ses activités. En 2023, la branche britannique d'Extinction Rebellion avait elle aussi annoncé son retrait. Et quoi que l'on pense de ces mouvements, eh bien c'est une très mauvaise nouvelle pour l'environnement.
Merci Igor Strauss. On va continuer à parler de l'environnement avec un programme très particulier. On vous donne tous les détails dans notre monde de tech. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Anne.
Ce programme, c'est l'Internet des animaux. L'idée, c'est de marquer à terme 100 000 animaux dans le monde entier et de les observer depuis l'espace, avec évidemment un regard totalement différent. Ce projet, c'est le projet d'une vie, celle de Martin Wikelski. Il dirige le département des migrations à l'Institut Max Planck du comportement animal, c'est en Allemagne. Comment est-ce que ça fonctionne, l'Internet des animaux?
Eh bien, dans le monde entier, les animaux sauvages sont équipés d'émetteurs alimentés par l'énergie solaire. Ces balises sont minuscules, certains pèsent à peine un gramme, et cela permet de les poser sur une variété inédite d'animaux, des grands mammifères terrestres et marins, en passant par les oiseaux et les reptiles, jusqu'aux insectes. Aussi petites soient-elles, ces balises contiennent chacune un véritable laboratoire. Il y a un GPS pour localiser l'animal, des capteurs pour mesurer sa fréquence cardiaque et sa température corporelle, d'autres capteurs pour la température de l'air, la pression atmosphérique, la vitesse du vent et l'humidité. En résumé, chaque balise permet d'enregistrer la localisation de l'animal, son état physique et l'état de l'environnement dans lequel il évolue. Toutes ces données seront envoyées dans l'espace à 5 satellites miniatures, pas plus grands que des Rubik's Cube. Ce système spatial a été baptisé Icarus et il sera lancé à bord d'une fusée privée en 2025. Les données récoltées par les émetteurs posés sur les animaux puis réceptionnées par les satellites seront ensuite téléchargées sur MoveBank. C'est une base de données accessible gratuitement aux scientifiques du monde entier.
Et à quoi va servir cet Internet des animaux?
Il y a toute une panoplie de champs d'application, Anne. Grâce aux nouvelles technologies de micro-balises, on pourra pucer des animaux qu'on ne pouvait pas suivre jusqu'ici. On aura ainsi des données qui proviennent d'endroits inaccessibles à l'homme, en dessous de plaques de glace, par exemple, au fond de l'océan ou sous la canopée de la forêt amazonienne. Et si on comprend mieux la vie de ces animaux sauvages, si on découvre leur route migratoire, les difficultés qu'ils y rencontrent et même la cause de leur mort, eh bien, on pourrait installer de nouvelles zones et corridors protégés pour les préserver.
Donc avoir aussi accès à des données sur l'environnement.
Absolument. C'est le deuxième volet et non des moindres. Les animaux deviendront des sentinelles du changement climatique. Les données envoyées par leurs émetteurs pourront améliorer les systèmes d'alerte précoce sur les phénomènes météorologiques extrêmes. En utilisant le sixième sens des animaux, qui se traduit souvent par un changement brutal dans leur comportement, les scientifiques espèrent même pouvoir prédire des séismes ou une éruption volcanique que les animaux perçoivent dès heures avant l'événement. Bref, cette liste n'est pas exhaustive, Anne. Les scientifiques, dans le monde entier en tout cas, estiment que l'Internet des animaux nous dévoilera des secrets du monde auxquels nous n'avons même pas encore pensé.
Et quelles sont les prochaines étapes, Stéphanie ?
Alors, d'ici l'année prochaine et le lancement des satellites, les chercheurs veulent étendre le marquage des animaux, davantage d'espèces à travers le monde. Pour l'instant, 1200 font partie du programme et davantage d'individus au sein d'une même espèce. Et puis, Martin Wikelski, l'inventeur de l'Internet des animaux, veut lancer une application accessible à toutes et tous sur smartphone. Vous, Anne, vous pourrez alors suivre la migration de votre oiseau ou votre tortue préférée. L'objectif est aussi simple qu'ambitieux, faire de chacun d'entre nous un défenseur de la biodiversité.
Je trouve ça absolument génial. Merci Stéphanie Schuller. Dans 5 minutes, un nouveau journal sur RFI. Puis nous parlerons avec notre invité de cette nouvelle tentative d'assassinat contre Donald Trump. Et puis à 12h30, temps universel, l'actualité africaine. Avec vous, Nicolas Sûr, bonjour.
Bonjour Anne Cantner.
Et à la une aujourd'hui.
Il y a tout juste un an, les régimes militaires au pouvoir au Mali, au Burkina et au Niger créaient l'Alliance des États du Sahel. But affiché, combattre ensemble les groupes armés qui sévissent dans ces pays. Aujourd'hui, l'Alliance est devenue confédération avec un périmètre d'action élargi. On tire le bilan dans Afrique Midi. Et puis un appel à la libération de Mohamed Bazoum. Il est lancé par une trentaine de personnalités dans une tribune publiée dans le quotidien français Le Monde. Depuis le coup d'État, Mohamed Bazoum est toujours retenu à la résidence présidentielle à Niamey avec son épouse.
À tout à l'heure, Nicolas.
Comme un chalipo, de tout précipito.
Ah, vous l'aurez forcément reconnu, on ne le présente plus. Voici Rema pour nous accompagner jusqu'au prochain journal avec Chali Poppy et ce titre, Benin Boys.
Now we be the bread of Benin, no basin suppose give us medal, give medal. Now my Benin brothers I go call before I call your love power, if anything about. Let me boy, you can paste your location. What is your next destination? Should I give you my direction? Touch Benin boy, you don't touch full nation. Touchdown Benin boys, gang gang gang. Money agba money regbete. Remi eke waro shali sapele. Sata money ka touchdown shekes. They dey like to the dance the leg bebe. Now we dey bully now we dey bebe. If you play with the boys, you go call us. See the wins, you know, it doesn't win no games. Take care of that, they call us Benin boys. We know they make too much noise. Now we they pull up with convoy. You know the billings way with the chest. Many fishes in the river, but now you and one test. Chop you and keep my teeth, you for lunch. Have you for dinner on to the next? We are speckless, beggele, dumbaga, dumbi, new boys, no de rest, we are shimmas. Say we see opportunity, we know we susu, small thing, come at you, stand by for my team. Small circle. Big money, dirty money, chubby body wanna call me. New Benzo incoming, everybody tell me what time that you coming.
RFI, la sélection du mois.
Neja is a Kwenuban.
I am Ibo and Hausa and Yoruba and many more.
I am Nigeria.
Gims.
Ok, eh, hey, hey, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets, sur le féfé. Je préfère mieux ça, claudie tété. Donc,
j'en ai vu que toi, baby.
On y va.
In my mind, I am looking for the melody.
Yemi Alade.
Oh yeah. My mind not stay worry for my chair. I
télescope.
Comme une forêt vierge sous la pluie. Exotique.
Toute la sélection du mois à découvrir sur RFI Musique.
Mira, la foire d'art contemporain latino-américain se tient du 18 au 22 septembre à Paris. Mira, une plateforme de découverte et une vitrine de talents pour explorer la diversité, la richesse et l'innovation artistique d'Amérique du Sud. Du 18 au 22 septembre. Plus d'informations sur mira-artfair.com en partenariat avec RFI.